Chère auditrice, cher auditeur, bonjour. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour est un besoin, le besoin d'aimer, de sortir hors de soi, d'aller vers l'autre, s'y attacher, le posséder et tout lui donner. Mais l'amour, c'est aussi le besoin d'être aimé, de se sentir attendu par l'autre, de sentir que je compte pour lui et même que je lui suis indispensable. Je voudrais bien le souligner, aimer et être aimé, ce n'est pas un choix, mais une nécessité vitale. Nous ne pouvons pas ne pas aimer. Mais allons lentement. Je voudrais vous proposer une vision de l'amour dans le couple, telle que mon travail de psychanalyste me l'a inspiré. Après mon récit, je répondrai comme d'habitude aux questions que m'ont posées celles et ceux d'entre vous qui ont déjà écouté ce podcast sur l'amour. Je vous rappelle que le prochain épisode de notre émission L'Inconscient sera disponible en podcast. Vous pouvez l'écouter et enregistrer vos questions sur la page L'Inconscient, franceinter.fr.
L'Inconscient, Docteur Nasio, sur France Inter.
Avant tout, je tiens à vous préciser que les propos que vous allez entendre se réfèrent surtout à l'amour dans la relation homme-femme. Parce que la plupart des couples qui me consultent sont constitués par des hommes et des femmes, parfois mariés, parfois pacsés, ou encore en union libre. Cependant, il est de plus en plus fréquent que je reçoive des couples d'hommes et de couples de femmes. Je demande donc à mon auditrice ou à mon auditeur qui a fondé un couple avec un partenaire du même sexe, je lui demande de m'écouter en sachant que c'est de lui aussi que je parle, même si je ne me réfère pas explicitement au couple homosexuel. Je considère que l'essence de l'amour dans un couple est la même, quelle que soit l'identité sexuelle des protagonistes. Pareillement, si je pense à l'auditeur ou à l'auditrice qui vit seule, et souvent c'est une maman qui vit seule avec son enfant, eh bien, je voudrais lui dire que mes propos sur l'amour lui rappelleront sans doute un amour déçu ou lui feront rêver à un amour à venir. C'est donc de l'amour dans le couple dont je vais vous parler. Mais laissez-moi tout d'abord vous faire écouter ce merveilleux poète musicien qu'est Jacques Brel lorsqu'il chante « Quand on n'a que l'amour ».
Quand on n'a que l'amour.
Les mots que vous allez entendre sont les mots d'un amoureux qui, de toutes ses forces, crie sa passion. « Tant que nous aimons, nous dit-il, nous sommes riches, parce que nous avons la foi en un bonheur futur. » Je vous laisse maintenant le plaisir de l'écouter.
« Quand on n'a que l'amour, pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson. Force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.
« Reprenons-nous. Décidément, Brel est un ouragan qui nous emporte. Entrons à présent dans mon cabinet. L'autre jour, un de mes patients qui traversait une période difficile de doute dans son couple m'a demandé « Je ne suis pas sûr d'aimer vraiment Françoise. Comment savoir si je suis ou non amoureux ?» Je lui ai répondu que l'amour n'était pas un sentiment homogène, pur, mais un mélange des sentiments, et que pour savoir s'il était amoureux, il lui fallait se retrouver dans la plupart des émotions qui composent l'amour. Après cette séance, l'idée m'est venue de penser l'amour comme un bouquet d'émotions, un bouquet de fleurs. En effet, l'amour serait un éclatant bouquet tenu par une main à la manière du lumineux tableau de Picasso, Mains aux fleurs, tableau qu'il a réalisé en 1958. C'est ainsi que l'expression « bouquet de l'amour » s'est imposée à moi. Un bouquet formé des 11 fleurs représentant chacune une émotion amoureuse. Aussi, je voudrais vous décrire en détail, l'une après l'autre, les différentes fleurs de l'amour. Mais tout d'abord, il me faut vous définir la main qui en serre les tiges du bouquet, ou si vous préférez, vous soumettre une définition générale de l'amour qui vaut pour l'ensemble des fleurs. Qu'est-ce donc qu'est l'amour ? L'amour est par essence un attachement. Le plus viscéral des attachements à la personne qui, par le seul charme de sa présence, me promet de me rendre heureux. J'aime celui ou celle qui me fait croire, sans la moindre intention de me tromper, que c'est avec lui et avec lui seul que j'aurai une vie pleine de satisfaction. Bien sûr, je sais qu'aucun être sur terre ne pourra jamais me procurer le bonheur absolu, et pourtant, je ne cesse de m'attacher à lui et de tout faire pour qu'il réponde à mon attente. Justement, l'amour, c'est cette attente illusoire. Oui, l'amour est avant tout une attente, une illusion, l'espoir innocent d'un bonheur que l'on sait pourtant impossible. Disons-le autrement, aimer n'est pas un aboutissement, mais plutôt un cheminement, une succession de 1000 marques d'amour animées par mon illusion d'atteindre un jour la félicité. Une félicité qui, en fait, n'arrive jamais. En un mot, j'aime celui qui, par la magie de sa personne, me fait croire au bonheur à venir. L'amoureux, en s'adressant à son partenaire, lui déclarerait « Au-delà de notre vie quotidienne, faite de petites joies et de querelles inévitables, je t'aime profondément, en espérant qu'un jour tu tiendras ta promesse de me donner enfin ce qui me manque. Et moi, de même, je voudrais susciter en toi l'espoir qu'un jour je tiendrai ma promesse de te donner enfin ce qui te manque. » Et c'est ainsi, sans que jamais les promesses ne se réalisent et sans que jamais le bonheur rêvé n'advienne, que nous sommes heureux et malheureux de vivre ensemble, que nos corps s'unissent, que parfois des enfants naissent et qu'une famille s'effondre. Sans doute, nos illusions sont-elles virtuelles, mais elles sont aussi une source foisonnante de vie. Grâce au virtuel, nous engendrons du réel. Grâce au mirage de l'amour, nous donnons naissance à un enfant. Du non-être, nous engendrons un être.
Avec le docteur Nasio.
Je viens de définir l'amour comme une illusion. Cependant, en commençant mon récit, souvenez-vous, je l'ai défini aussi comme un besoin. L'amour est à la fois une illusion et un besoin. Pour m'expliquer, je tracerai une ligne oblique qui part du sol et monte vers le ciel. Si nous pensons que l'amour est une illusion, nous le définissons comme une étoile qui brille dans le ciel. L'amour est alors une aspiration au bonheur. C'est son but qui le définit. Si en revanche, nous pensons que l'amour est un besoin, nous le définissons comme surgissant du sol. C'est sa source qui le définit. Ici, l'amour est une nécessité, la nécessité charnelle de s'attacher à l'aimer, de le serrer fort dans nos bras et sentir le plaisir partagé d'aimer et d'être aimé. La base physique de l'amour est donc la nécessité animale de s'unir à l'autre, le posséder ou se faire posséder par lui. Pour le dire en une phrase, je ne peux pas m'empêcher de m'unir à quelqu'un et de l'aimer. Je ne peux pas ne pas aimer. J'ai besoin d'aimer. Comme si nous étions mus par une saine pulsion des parasitismes, par une irrésistible tendance à nous emparer d'un homme ou d'une femme, à lui conférer le pouvoir de nous rendre heureux, nous y agripper fortement et déverser sur lui notre torrent d'amour. Ici, je voudrais vous lire un passage d'un grand écrivain, Théophile Gautier, qui définit l'amour-besoin en une métaphore brillante. « J'ai en moi, écrit-il, un trésor d'amour dont je ne sais que faire et qui me pèse horriblement. Si je n'arrive pas à le décharger, je me romprai comme un sac trop bourré qui s'éventre. Oh, si je pouvais aimer quelqu'un !» Eh bien, ce besoin impérieux d'aimer que Théophile Gautier nous fait sentir si puissamment, je l'appelle « pulsion d'aimer » ou plus joliment « immense ». Dans ce terme de « immense », je condense les mots « aimer » et « tendance » pour désigner la force viscérale qui nous précipite dans le bras de notre élu jusqu'à nous y attacher. L'amour étant ainsi doublement défini comme illusion et comme besoin, nous allons maintenant isoler chaque fleur du bouquet, je veux dire chacun des 12 élans, mélange d'illusions et des besoins, qui composent le sentiment amoureux. Première fleur du bouquet, la plus importante de toutes, c'est la sexualité, le désir sexuel. Je dis la plus importante de toutes, parce que sans les sexes, l'amour du couple devient tendresse, amitié ou fraternité. En revanche, avec le sexe, l'amour du couple s'enflamme, se colore des passions et se consolide. Je ne dis pas qu'un couple affaibli par une mésentente sexuelle ou une absence d'activité sexuelle se rompe forcément, non. Je veux simplement insister sur l'importance du plaisir sexuel pour le bien-être psychique des partenaires. Certaines femmes, insatisfaites sexuellement, se sentent délaissées. Pourquoi ? Parce qu'elles associent si étroitement le sexe et la tendresse qu'elles ressentent l'acte sexuel comme un acte d'amour. Si elles ne se sentent plus désirables, elles ne se sentent plus aimées. Dans un couple épanoui, lors des moments les plus ardents de la rencontre sexuelle, l'homme amoureux déclarait ainsi son désir à sa compagne. Si mon corps pouvait crier, il te dirait « j'en peux plus, j'en vis de toi ». Yoneko, je t'imagine me répliquer « j'en vis non seulement que tu viennes en moi, mais encore de m'effondre en toi ». Et l'homme de poursuivre « plutôt que de me satisfaire égoïstement avec mon orgasme, je serais mille fois plus heureux si tu jouissais en même temps que moi, nous nous sentirions alors deux en un. Désirer son partenaire, c'est plus que vouloir atteindre le plaisir d'un orgasme. C'est être nu ensemble, s'exciter mutuellement, humer le parfum de nos peaux, rire, jouer dans le feu follet de nos sensations. Et s'oublier, surtout s'oublier.
Dans une ambiance érotique, une attirance érotique, Eros-Center, érotique de senteur aromatique.
Deuxième fleur du bouquet. À vrai dire, mon aimé est un être hybride. Je l'aime non seulement pour ce qu'il est, mais pour ce que j'imagine qu'il est. Aussi, notre partenaire est-il un mélange de réalité et de fiction, un être hybride, mi-réel, mi-fantasmé. Nous aimons, et en aimant, nous forgeons imaginairement l'être que nous aimons. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que nos sentiments sont tellement plus forts que la réalité qu'ils créent une nouvelle réalité. Aimer, c'est créer une nouvelle réalité. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'au fond, nous créons ce que nous aimons. La troisième fleur du bouquet, c'est l'admiration. Pour aimer, je dois idéaliser celui que j'aime. J'admire mon aimé, quel que soit son domaine d'excellence. Je peux l'admirer, par exemple, pour sa jovialité appréciée de tous, ou pour ses qualités de père, ou encore pour ses talents de cuisinier. Mon compagnon, me disait Stéphanie, est un vrai chef. Il prépare le canard à l'orange comme personne. Ou bien, ma compagne, Jubilée Bernard, Ma compagne vient d'être nommée préfète. Vous entendez ? Préfète ! Je suis fier d'elle, docteur Nasio. Bref, il faut admirer. Sans admiration, il n'y a pas d'amour. La quatrième fleur du bouquet, c'est le narcissisme. J'aime celui ou celle qui est un peu comme moi. Dès le premier regard, je suis tombé amoureux sans m'apercevoir qu'elle me ressemblait par certains traits de sa personnalité. Ou bien, en étant plus conscient, j'ai choisi Fanny parce qu'elle avait les mêmes affinités sociales et culturelles que moi. Mais dans tous les cas, celui que j'aime porte en lui quelque chose de moi. La cinquième fleur du bouquet, c'est l'amour de soi. Assurément, l'amour allant à l'autre et venant de l'autre nourrit notre auto-estime. C'est pourquoi j'aime celui qui me rend fier d'être moi-même et que je rends fier d'être lui-même. Quand je suis avec lui, dirait-elle, et que nous discutons de nos projets de vie, il m'écoute et il me parle d'une telle manière que je me sens heureuse de penser ce que je pense et de dire ce que je dis.
France Inter, l'inconscient, avec le docteur Nasio.
La sixième fleur du bouquet, alors, là est une rose, mais avec des épines. C'est l'opposition satisfaction-frustration. Oui, j'aime celui qui, tour à tour, me satisfait et me frustre. L'aimer me satisfait, et pourtant, il est aussi celui qui, par le seul fait d'être une autre personne avec des sentiments, des pensées et une histoire différente de la mienne, me limite, réfrène mes envies, me frustre, m'exaspère, me met en colère et parfois me fait souffrir. Mon aimé est tantôt le plus délicieux des partenaires, tantôt le plus pénible. Décidément, c'est un génie à deux visages. Il me donne des ailes et les coupe à la fois. C'est pourquoi je ressens vers lui une tendre et douloureuse ambivalence. La septième fleur du bouquet a aussi des épines. Il s'agit de la culpabilité. J'aime celui dont je me sentirais coupable si je lui faisais du mal ou si je pensais à lui faire du mal. Mais sentir coupable envers mon aimé est l'un des signes les plus sûrs qui attestent que je suis amoureux. La huitième fleur du bouquet est la sollicitude. Qu'est-ce que c'est que la sollicitude ? C'est le souci du bien-être de celui que nous aimons. L'amour est toujours réparateur. Tout amoureux prend soin de son aimé quand celui-ci vit un moment difficile, se sent angoissé, affaibli ou parfois malade. Prendre soin de l'autre et indirectement prendre soin du lien qui nous unit est une fidélité à l'amour lui-même. Aussi, nous dirons « J'aime celui dont je prends soin et qui prend soin de moi. » Mais au-delà, j'aime le couple que nous formons. La neuvième fleur du bouquet est encore une rose avec des épines. C'est la crainte d'être abandonné. Curieusement, j'aime celui dont j'ai peur qu'il me quitte. Je dirais même plus. si je ne ressens pas la crainte d'être abandonné par celui que j'aime, crainte aussi légère et fugitive soit-elle, je ne suis pas vraiment amoureux. La crainte d'être délaissé est inhérente à l'amour. Plus j'aime, plus je sens que je m'expose à la blessure que signifierait d'être un jour abandonné. La 10e fleur du bouquet comporte également des épines. Il s'agit de la jalousie. C'est tout aussi curieux, mais j'aime celui qui me rend jaloux. Oui, la jalousie, bien que parfois ravageuse, est un sentiment parfaitement normal, car il n'y a pas de véritable amour sans jalousie. Pourquoi ? Parce que l'amour est naturellement possessif et que le propre de l'amoureux est d'exiger l'exclusivité. Aussi, la jalousie est-elle l'exagération de notre irrésistible possessivité amoureuse. Si j'aime vraiment, je ne manquerai pas de sentir des aiguillons de jalousie. La 11e et dernière fleur du bouquet est la dépendance. J'aime celui dont je dépends. Contrairement à ce que beaucoup d'entre nous imaginent, il ne peut pas y avoir d'amour sans dépendance. Si l'amour est un attachement, la dépendance en est le ciment. Mais quelle dépendance ? Il faut distinguer deux sortes de dépendances amoureuses. Une dépendance nocive, quand l'amoureux a horreur de se sentir étouffé dans son couple et craint de perdre sa liberté. Il s'imagine que s'il est dépendant, il ne supportera jamais la souffrance d'être un jour abandonné. Ça, c'est la dépendance nocive. Et puis nous avons une dépendance saine, quand l'amoureux, insoucieux, ne se demande pas s'il est ou non soudé à son aimé. Il vit la dépendance, il n'y pense pas, puisqu'il ne se sent pas menacé. Et il ne se sent pas menacé parce qu'il ne se sent pas faible. Incontestablement, la personne qui aime vraiment n'a pas peur d'aimer ni d'être dépendante. Concluons. Quand je désire sexuellement mon partenaire, quand je l'admire et qu'il ne cesse de me surprendre, quand nous nous disputons avant de nous réconcilier, quand je me sens coupable de l'avoir blessé, quand je prends soin de lui ou que j'ai peur de le perdre, quand je me sens fier de moi en sa présence, et surtout, quand tous ces élans conjugués me transportent vers lui, je me dis sans hésiter que je suis le plus amoureux des hommes ou la plus amoureuse des femmes. Voilà pour le bouquet de l'amour. Maintenant, je voudrais consacrer la dernière partie de notre récit en répondant à une question que de nombreux patients me posent. À l'heure actuelle, me disent-ils, de plus en plus de couples se font et se défont. Est-ce la nature même de l'amour que d'être éphémère ? L'amour dans un couple peut-il durer ? Et moi de leur répondre, bien sûr, l'amour peut être durable. Il faut le dire et le redire. Il est vrai que de nos jours, alors qu'on s'est choisi librement et souvent avec passion, on se quitte au moindre différend. À la soudaineté du coup de foudre répond la violence d'une séparation impulsive. Comme si les partenaires du couple ne prenaient plus le temps de construire et renforcer leur union. La vie à deux est comme un organisme vivant qu'il faut nourrir en permanence, une plante qui nécessite lumière, égard et patience, surtout patience. Parfois la plante dépérit prématurément et d'autres fois elle pousse vigoureusement. Cela dépend de la façon dont les protagonistes entretiennent leur relation amoureuse. Or, pour mieux l'entretenir, il faut savoir avant tout que le sentiment amoureux évolue et mûrit au fil des ans. Il est évident qu'on ne s'aime pas de la même manière à 20 ans qu'à 60. Et puis l'amour est bien différent au début, au milieu et à la fin de la relation. Au commencement, domine le bonheur d'être ensemble et le désir de réaliser des projets communs, puis, à la suite, d'inévitables désillusions, des réajustements s'imposent et l'on redécouvre l'aimer sous un visage nouveau, dans une réalité nouvelle. Ainsi se modifie la façon d'aimer. Il va de soi qu'au cours d'une vie, chacun change physiquement et mentalement, traverse des épreuves qui le régénèrent et le transforment. Or, l'art du partenaire d'un couple solide est d'accompagner l'autre dans ses imprévisibles variations, tel le danseur qui s'accorde au nouveau rythme de sa cavalière. Mon autre remarque sur la durée de vie du couple, et c'est avec cette remarque que je vais terminer mon récit, concerne les crises dans un couple. Il n'est pas de couple sans crise, car la crise fait partie du difficile équilibre de la vie à deux. Le problème n'est pas d'éviter les crises, elles sont inévitables, mais d'apprendre à les surmonter pour se retrouver ensuite apaisé. Or, la première règle pour surmonter une crise, c'est de ne pas bouder, de ne pas laisser votre colère vous envahir plus d'une demi-heure et savoir reprendre rapidement les gestes du quotidien. Pour qu'un couple dure, ne vous demandez pas s'il va durer ni combien de temps il va durer. C'est le même type de conseil que je donne à ceux qui se demandent s'ils sont heureux. Je leur réponds, ne vous demandez pas si vous êtes heureux. Si vous vous le demandez, vous direz non et vous serez angoissé. Bref, ne levez pas les yeux au ciel pour regarder les nuages chimériques ou menaçants. Baissez la tête, tranquillement, regardez vos pas ou regardez devant vous, avancez et aimez chaque pas que vous faites, en entendant les pas de celui qui marche à vos côtés, celui que vous aimez et qui vous aime. Mon dernier mot sera un vers tiré d'un sonnet de Pierre Ronsard, merveilleux poète du XVIe siècle, qui, pour charmer sa belle Hélène, lui chantait « Vivez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. »
France Inter présente son premier podcast interactif, L'inconscient, avec le docteur Nasio.
Ne partez pas, je vais répondre aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté cet épisode en podcast, disponible sur la page L'Inconscient sur franceinter.fr. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez aussi nous laisser vos messages et vos questions au 01 56 40 64 04. Mais avant nos échanges, je vous propose d'écouter un titre magnifique de Os Mutantes. C'est un groupe brésilien.
Ruban de soleil qui s'enroule sur ta main et caresse mon épaule. C'est le souffle de la mer et la plage qui attend. C'est l'oiseau qui a chanté,
l'oiseau qui a chanté
sur du figuier.
Eh bien, maintenant, c'est à vous de me poser vos questions. Je vous écoute.
Bonjour, docteur Nasio. Je voulais savoir si, selon la psychanalyse, on ne tombait amoureux ou amoureuse que pour de mauvaises raisons inconscientes, parce qu'on projetait des choses sur l'être qu'on aimait, on recherchait son père, sa mère ou que sais-je encore, ou si on pouvait tomber amoureuse juste parce qu'on aimait... l'autre personne. Voilà. Je suis Sylvie, j'ai 37 ans et évidemment je pose cette question car Cupidon ne m'a pas attaqué avec une petite flèche mignonne et un petit arc, mais avec une puissante arbalète à recharge automatique. À bientôt.
Merci Sylvie, c'est très sympathique votre question. Je réponds deux choses. D'abord que, bien sûr, on peut tomber amoureux et entretenir cet amour pendant des années, pour des raisons inconscientes. Bien sûr, il faut savoir, je tiens à le dire et à le redire, ceux qui s'aiment peuvent s'aimer longtemps. Tous les couples ne se séparent pas immédiatement. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de couples, une grande proportion, peut-être la majorité, ont des problèmes et des difficultés qui font qu'à la moindre difficulté, on se sépare. Au moindre différent, on se sépare. Mais le couple peut durer longtemps.
Bonjour docteur, merci pour vos émissions, pour tous ces échanges. Ma question est celle qui me taraude depuis plus de 2 ans. Comment vivre avec le sentiment de trahison, de culpabilité, d'avoir détruit un amour par de l'infidélité? Je sais, ou je crois savoir, que je ne l'ai pas fait contre mon épouse, mais le résultat est que j'ai détruit ma compagne, ma femme, mon amour. Je me sens coupable et moche. Bonne continuation. Par avance, merci.
Philippe, votre témoignage est très émouvant. Je suis sûr que tous les auditeurs l'ont senti. Votre culpabilité est douloureuse. Mais vous savez, c'est touchant de voir combien vous continuez à aimer votre compagne. Votre culpabilité est une expression de l'amour, fut-il perdu. Dommage que votre épouse n'écoute pas notre émission, parce que même s'il a refait sa vie, il faut qu'elle sache que l'amour que vous avez vécu ensemble, vous et elle, avant l'infidélité, eh bien cet amour vous a enrichi tous les deux.
Bonjour docteur Nazio, j'aimerais savoir si selon vous les personnes qui ont un style d'attachement dit évitant ou détaché sont capables de vivre le même bouquet d'émotions amoureux ou s'ils diffèrent et en quoi. Merci beaucoup.
Et je dois vous dire que le couple libéré, où chacun peut choisir occasionnellement d'autres partenaires, est un couple, d'après ce que j'ai appris avec mes patients, est un couple très exposé à la rupture, pour la simple raison que l'un ou l'autre des partenaires court le risque de trouver un amoureux à qui s'est donné entièrement. C'est ça qui est intéressant. Il trouve un tiers et il va faire avec ce tiers ce qu'il n'a pas fait avec le premier. C'est-à-dire, elle ou il va se donner entièrement au nouveau compagnon et dont il va exiger la fidélité. On exige la fidélité lorsqu'on aime. L'amour est toujours un amour exclusif. L'être humain a besoin d'aimer et de se sentir aimé dans une relation stable qui le repose et lui fait oublier qu'il est seul. Nous avons tous besoin de quelque chose qui soit comme une certitude que je suis aimé et une certitude que je peux aimer et que cela signifie effectivement une exclusivité, même s'il peut y avoir l'infidélité. Je précise que pour tous les auditeurs qui se sont seuls dans leur vie, sachez que de toute façon, vous aimez. Moi, je pense que chaque être humain a un récepteur de l'amour. Un récepteur de l'amour, imaginez, c'est comme une petite boîte dans la tête. Cette petite boîte, où elle est remplie, ou cette petite boîte est vide. Si elle est vide, alors il y a une chance de pouvoir trouver un compagnon et d'être disponible pour un compagnon. Et en même temps, si la boîte est fermée, occupée, et parfois la boîte, le récepteur de l'amour est occupé par un travail qui nous prend très à cœur, ou par un animal domestique, par un idéal, par une maison, par des relations familiales. En tout cas, le récepteur de l'amour est occupé. Et ça rend plus difficile le nouage d'une relation amoureuse.
Bonjour, docteur Nazio, c'est Sophie. Merci pour ce superbe podcast sur le sentiment amoureux et le bouquet de l'amour avec toutes ses variations, ainsi que le Carpe Diem de Ronsard. J'ai une question concernant les couples qui se forment très jeunes. Que pensez-vous des couples qui se construisent donc en quasiment en miroir à l'adolescence. Est-ce que c'est plus facile de construire un couple qui dure quand on se rencontre très jeune ou pas ? Et question supplémentaire, est-ce que l'arrivée d'un enfant peut beaucoup faire bouger, on va dire, le sentiment amoureux d'un conjoint ? Et qu'est-ce que cela peut bouleverser dans le schéma amoureux du couple ? Voilà, je vous remercie en tout cas pour vos réponses éclairées. Merci, au revoir.
Alors, deux réponses. Sophie, d'abord, oui, le travail avec mes patients m'a appris qu'effectivement, plus on se rencontre étant jeune, plus il y a des risques de séparation. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas eu le temps, au début, de vivre pleinement notre jeunesse. C'est comme s'il fallait vivre étant mûr ce qu'on n'a pas vécu étant jeune. Et oui, alors bien sûr, ça on ne peut pas commander de se dire « Ah non, je ne me mettrai pas en relation avec mon camarade de lycée parce que je risque demain de me séparer de lui ». Non, ne faites pas des calculs. Soyez vous-même tel que la vie vous appelle. Concernant l'enfant, c'est dans le même esprit que je vous dirais ça. Il faut avoir l'enfant au moment où vous sentez que c'est aussi un appel du couple, de pouvoir faire venir un tiers merveilleux qui est votre enfant. Alors oui, c'est bien sûr, l'apparition d'un enfant va modifier la dynamique du couple. C'est très important de séduire à son compagnon. Je dis ça toujours aux patientes femmes et aux hommes aussi, de « s'il vous plaît, il faut rester toujours séduisant et ne jamais se laisser aller à parler à l'autre comme s'il était moi-même. » Il y a une sorte de délicatesse, de pudeur. C'est ce qu'on appelle la retenue. L'aimer doit être toujours séduit, conquis en permanence, ne pas le considérer comme m'appartenant ni comme définitivement conquis. Merci à tous pour vos questions. J'ai une nouvelle importante à vous annoncer. Notre émission L'Inconscient évolue et notre équipe s'élargit. Sachez en effet qu'à partir du 8 janvier, vous entendrez d'autres psychanalystes vous parler de l'inconscient. C'est avec plaisir que je voudrais les nommer Caroline Le Guil, Caroline Eliachef et Laurie Lofer. Chacune de ses collègues vous présentera une fois par mois son travail autour de l'inconscient. Pour ma part, je vous retrouverai désormais une fois par mois, avec grand plaisir, et vous donne rendez-vous le dimanche 29 janvier. Notez donc bien que pour votre prochain rendez-vous de l'inconscient, c'est Caroline Le Guil qui ouvrira l'année 2023 en vous parlant du rêve. Vous trouverez dès demain son premier podcast sur notre site. Je vous propose d'aller l'écouter. Posez-lui vos questions. Elle vous répondra le dimanche 8 janvier à 15h sur l'antenne de France Inter. Il est l'heure de nous quitter. Je voudrais remercier Audrey Ripouille pour la réalisation de notre émission des podcasts, ainsi que Mathieu Bérény à la technique. Et puisqu'il est question de rêve, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année.